Atmosphère sur Radio Coteau, vous avez la parole sur tous les thèmes de l'écologie, du développement local et durable et du commerce équitable. Contactez-nous au 05 62 66 92 25 ou par email à radio.coteau@orange.fr.
Nous sommes heureux de vous retrouver donc en direct sur Radio Coteau. Je vais en profiter pour rappeler nos fréquences 97.7, 104.5. Vous pouvez nous entendre également sur le www.radiocoteau.com. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit d'un projet qui a pour nom le projet Coterra. Et pour parler de ce projet Coterra, j'accueille dans le studio de Radio Coteau Caroline Mougne, qui est chargée d'animation, coordination et communication à l'INRAE. Bonjour Caroline, ça va ?
Ça va très bien.
J'accueille également Floriane Clément, qui est, elle, responsable scientifique de ce projet, qui travaille aussi à l'INRAE.
Tout à fait, bonjour.
Bonjour Floriane. Et nous avons un agriculteur, un voisin de Blagen, M. Emmanuel Cagnin, exploitant laitier, je crois, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Et pour tous les trois, c'est la première fois sur Radio Coteau, bien entendu.
Et oui.
On
et
est d'accord.
Première fois sur la radio.
Alors justement, quand c'est la première fois sur la radio, on aime en savoir un petit peu plus sur nos invités du jour, un peu leur parcours. Alors je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. On peut peut-être commencer par Caroline.
Allez. Donc moi je m'appelle Caroline, j'ai 27 ans, donc assez jeune encore. Je suis ingénieure agro, diplômée de formation, et en fait au cours de ma formation, je pense que je me suis interrogée un peu sur ce qu'on me transmettait, sur la façon qu'on avait de me transmettre l'agriculture. Et j'ai pas mal questionné le format un peu recette qui était classique, où on me demandait de calculer les apports en fonction des rendements par hectare, etc. Je pense que je me suis plus intéressée aux dynamiques du vivant et au fonctionnement du vivant. Voilà, donc je me suis formée après un peu professionnellement aussi dans les fermes et avec l'intention de m'installer en paysannerie un peu plus tard.
Et t'as été issue d'un milieu agricole ou pas du
Absolument
tout ?
Absolument pas.
Absolument pas ?
Si, comme tous les Français, mais des vieilles générations.
Ouais, et donc ton projet, c'est de t'installer carrément ?
Oui, c'est ça, en paysannerie, ça revient petit à petit.
Ouais. Et tu as déjà une idée de l'endroit où tu vas t'installer ou pas du tout ?
Dans le sud-ouest essentiellement. Après, il y a un projet qui est centré surtout sur la notion de collectif et de faire une ferme un peu complète avec une diversité d'activités et où il y a des complémentarités entre les différentes activités.
Ce qui rejoint le projet Coterra, j'ai l'impression, complètement. Floriane, même question. Alors, ton parcours ?
Alors moi, je suis originaire à côté d'Orléans. Je ne vais pas dire mon âge.
Non, mais tu n'es pas obligé de donner ton âge.
50 ans, on va dire. Voilà.
Très jeune encore.
Voilà, encore très jeune. Et mon parcours, j'ai fait des études d'ingénieur au départ. J'ai travaillé un peu à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France. Voilà, pour aider les entreprises à les accompagner sur la gestion des déchets, de l'énergie, etc. Et puis après, j'ai complètement changé. J'ai fait une thèse et je suis partie au Vietnam. Je suis partie en Inde et au Népal. J'ai travaillé sur... j'ai conduit des recherches sur les politiques, les projets de développement en lien avec la forêt, avec l'eau. Et après, je suis rentrée en France il y a 5 ans et j'ai rejoint INRAE à ce moment-là. Et voilà. Et depuis, je travaille sur Coterra.
Enfin, un parcours fait de beaucoup d'expériences, en tout cas, j'ai l'impression.
Hein. Ouais.
De rencontres aussi, certainement.
Oui.
Avec tous ces voyages. Alors, avant de donner la parole à Emmanuel Cagnin, l'INRAE, c'est quoi exactement ?
Alors, l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. C'est un grand institut de recherche qui regroupe beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces thématiques. Et nous, à l'INRAE, on fait partie d'un laboratoire qui s'appelle DINAFOR et qui travaille plus spécifiquement sur les liens entre biodiversité, agriculture, forêt... et j'oublie rien.
C'est un laboratoire récemment créé ou qui existe depuis longtemps ?
Qui existe depuis les années
80.
On a 20 ans cette année. Donc exactement. Merci Caroline, on a 20 ans cette année, effectivement.
Donc vous avez travaillé sur de nombreux projets avant le projet Coterra, je suppose.
Mes collègues, oui. Exactement. Mais ça fait un moment qu'ils travaillent sur le bas commun. En particulier, il y a des suivis des populations d'oiseaux, notamment depuis les années 80.
En relation avec le LPO ou pas du tout ?
Non, pas spécifiquement, mais ouais. Ouais, ils suivent un peu les différentes populations d'oiseaux qu'il y a sur le territoire.
L'INRAE, c'est structuré comment ? Il y a une antenne parisienne ou c'est local, c'est régional ? Comment ça fonctionne ?
Alors, il y a des centres dans chaque région de France. Il y en a même dans les DOM-TOM également. Mmh. Et puis après, dans chaque centre, il y a différents laboratoires qui travaillent sur des thématiques différentes. Voilà.
Je ne vais pas poser la question à Caroline, mais pourquoi l'INRAE d'ailleurs ? Comment on arrive à travailler dans des structures comme celle-là ?
Une bonne question.
C'est le hasard,
Non, je pense que moi, c'est plutôt le projet Cotera en lui-même, ouais. Et les thématiques qui m'ont attiré à l'INRAE. Il se trouve que l'INRAE, ça a l'avantage, en tant que structure de recherche, d'avoir une certaine neutralité, de mettre à disposition beaucoup de connaissances. Quand on veut s'installer, c'est aussi c'est la suite du parcours d'apprentissage, quoi.
Ouais. Alors, on va donner la parole à notre troisième invité. Alors, il nous a averti, ça va être long. Son parcours est riche. Emmanuel, donc installé agriculteur laitier à Blagen, de génération en génération ou pas ?
Moi, éleveur laitier, effectivement, j'ai repris la ferme de mes parents qui sont arrivés d'Italie, en fait, ouais. Dans les années 60, hein, voilà, et qui avaient créé l'élevage laitier parce qu'à cette époque-là, c'était une source de revenus assez sûre dans l'agriculture. Et donc, moi, j'ai repris la ferme laitière quand ils sont parti à la retraite quand j'ai terminé l'école, voilà. Donc ça va faire 30 ans cette année, donc je ne dirai pas mon âge, mais voilà, ça vous donne une idée.
Jeune comme les voilà. Deux autres invités.
J'aurais envie de dire, je suis éleveur laitier depuis un peu toujours, parce que quand on est petit et qu'on grandit dans une ferme et qu'on se prend de passion pour ça, en fait, même tout petit, on est déjà éleveur.
Ouais. C'est un métier passion, de toute façon.
Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Sinon, c'est un métier passion. Sinon, on peut pas faire ce métier si c'est pas un métier passion, parce que agriculteur, mais éleveur encore plus, c'est pas un métier, c'est vraiment... on est éleveur, point. C'est pas simplement un métier, voilà. On est ça... toute la journée, tous les jours.
24 heures sur 24,
voilà, oui. C'est ça, un peu.
Tes parents ont créé l'exploitation, mais je suppose que ça a évolué, déjà peut-être une fois que tu as pris les rênes de cet élevage.
Alors au début, pas tellement. En fait, on avait un élevage assez conventionnel, assez classique, dans tout ce qui... Enfin, voilà, comme tous les autres élevages... qu'il y avait dans le secteur, élevage assez conventionnel. Dans les années 70, il y a eu dans l'agriculture une grosse intensification des animaux un peu plus en bâtiment, parce qu'à ce moment-là, il y avait une raison économique à faire ça. Il y avait tout plein de raisons, de facilité de travail aussi peut-être. Et j'ai repris une ferme, on va dire, conventionnelle. Mmh. Pendant une dizaine d'années, un peu plus, j'ai travaillé de manière très conventionnelle. Et après, par le biais de certaines rencontres, j'ai commencé à me poser quelques questions. Ensuite, j'ai commencé à changer un petit peu de vision sur mon métier et de façon de procéder, voilà.
De méthode de travail ?
Oui.
On peut rentrer un peu plus dans le détail ?
Dans le détail, en fait, je me suis rendu compte, comme un peu beaucoup d'agriculteurs, qu'on avait des problèmes d'érosion, en fait, sur nos sols. On avait des problèmes qui... de compaction de sol, des problèmes face aux orages, aux événements climatiques. On accusait toujours ces événements climatiques, mais en fait, des orages, il y en a un peu toujours. On avait une façon, on a encore une façon de travailler le sol avec du travail du sol, des sols qui peuvent rester nus parfois en hiver. Et donc j'ai rencontré des personnes qui faisaient différemment. Et donc petit à petit, il y a une quinzaine d'années, je me suis intéressé aux couverts végétaux, à la réduction du travail du sol. Parce que voilà, j'ai vu ça chez d'autres agriculteurs et ça m'a parlé assez rapidement en fait. Ça m'a vraiment redonné goût à l'agronomie. Mais voilà, quand je parle d'agronomie, c'est vraiment regarder ce qui se passe dans la terre, voilà, se mettre à genoux dans le sol, vraiment regarder la vie qu'il y a dans le sol. Et ça, c'est quelque chose que voilà, il y a 30 ans, on n'apprenait pas à l'école. Alors aujourd'hui, je pense un petit peu plus, heureusement. Mais voilà. J'ai commencé à changer doucement mes façons de travailler, comme d'autres agriculteurs aussi l'ont fait. Et en fait, voilà, ça redonne vraiment aussi goût au métier.
Et les plantations de haies, peut-être aussi, parce qu'on en parle beaucoup.
Alors ça, j'en ai fait, mais très peu encore. Voilà, c'est un projet. C'est un projet sur la ferme, mais voilà. Après, bon, par exemple, ça fait 12 ans qu'on est en zéro sol nu, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une terre nue en hiver. Il y a le travail du sol le moins possible. Voilà. Bon, il y a eu un passage en bio il y a 7 ans. Voilà. Donc
c'était une évidence, le passage en bio pour toi, Emmanuel? Et déjà, est-ce que c'est facile de passer en bio ou c'est compliqué donc?
Non, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile puisque en fait, on est tellement habitué à avoir tout un tas d'outils chimiques, je dirais, de la même manière que quand on est malade, on prend des médicaments. Et bien, quand on est agriculteur conventionnel, on utilise de la chimie parce que en fait, on a toujours appris à faire ça comme ça. Et c'est difficile de faire différemment. C'est vraiment très difficile de faire différemment. Donc, le passage en bio, oui, est un vrai challenge pour un agriculteur, oui.
Actuellement, le cheptel?
Oh, ben, actuellement, voilà, chez moi, c'est une cinquantaine de vaches laitières en production, avec donc encore des primochtaines, les fameuses blanches et noires,
ouais.
Voilà. Et puis aussi des jerseyaises, voilà, à peu près un tiers de jerseyaises.
Quelle voilà. Particularité à la vache de Jersey, alors? C'est la première fois que j'entends le nom de cette race.
Ouais, la Jersey est assez peu connue en France, alors de plus en plus. Il faut quand même savoir qu'à travers le monde, c'est la seconde race laitière existante, mais... Voilà, il y a des pays où elle est très présente. C'est une vache de petite taille, en fait, vraiment beaucoup plus petite que les autres. Et je dirais, pour le dire simplement, c'est une vache à beurre, en fait, voilà, qui fait beaucoup de matière grasse dans son lait.
Alors, je suppose qu'on va en parler tout à l'heure, mais comment tu commercialises ton lait?
Alors moi, depuis mon passage en bio, en fait, je suis passé, j'ai adhéré à un groupement de producteurs qui s'appelle Biolait. Qui regroupe...
Ça n'a rien à voir avec Benjamin, je fais un jeu de mots.
Ouais, ça n'a rien à voir, mais ça aurait pu, mais... Biolait, donc voilà, qui s'écrit tout simplement bio et lait, voilà, qui regroupe en fait 1300 fermes laitières bio en France. Voilà, donc il y a des fermes laitières bio un peu partout en France. Et donc, mon lait collecté par Biolait pour aller donc localement dans différents...
des biocoop peut-être,
différents circuits de commercialisation. Alors notamment dans les biocoop, voilà, mon lait part assez souvent en Ariège pour faire les yaourts biocoop notamment.
Et c'est facilement repérable, il y a un logo, enfin
alors il y a d'abord voilà, tous les produits laitiers qu'on peut trouver en biocoop sont issus du groupement de producteurs Biolait. Et ensuite pour les autres circuits de commercialisation qui est en train de sortir, il y a la marque Il est là. Donc, il, lait, comme le lait, est là. Voilà.
Un joli jeu de mots aussi.
Voilà.
Ouais. C'est percutant.
Mais voilà, ça c'est une marque qui est en train d'arriver dans certains magasins. Voilà.
Alors, on va expliquer évidemment ce qu'est le projet Côtera et on va comprendre pourquoi Emmanuel a rejoint ce projet Côtera. Ben, tout ce qu'il nous a dit, je trouve que ça rejoint complètement le travail que vous faites, hein, Caroline et Floriane. sans oublier Célia Médan, qu'on peut citer, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui vous a soutenu notamment dans l'animation des événements, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Et Célia, qui travaille aussi à l'INRAE ?
Célia, elle est dans le même laboratoire, le même projet.
C'est une équipe de trois jeunes femmes motivées, alors. Alors, comment on peut expliquer ce projet Cotera ? Est-ce qu'on peut revenir un peu au début, à l'histoire de ce projet ? Comment il est né ?
Alors, comment il est né ? Je dirais qu'il est né d'une conjonction de différents facteurs. Alors, d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le laboratoire d'INAFOR, donc qui travaille depuis longtemps sur ce territoire, mais c'était plus au travers de relevés écologiques, donc pour faire les liens entre le paysage, les pratiques agricoles et la biodiversité qui est utile à l'agriculture. Mais il n'y avait pas tellement d'engagement, en fait, des chercheurs avec les agriculteurs et avec les autres acteurs du territoire. Et donc, il y avait une volonté, en fait, d'aller vers un projet qui vraiment engage les chercheurs avec les autres acteurs. Et puis aussi, Manu en a parlé, il y avait les problèmes d'érosion. En fait, il y a eu en 2018, il y a eu des gros orages, il y a eu beaucoup de coulées de boue et de problèmes d'érosion. Et du coup, le conseil départemental, la chambre d'agriculture, c'était un problème et surtout les syndicats de rivière, c'était un problème qui... qui les inquiétait. Et du coup, on est parti un petit peu de ce problème d'érosion pour construire le projet Cotera. Mais après, on s'est aperçu que finalement, on ne pouvait pas juste rentrer par l'érosion, que c'était juste un symptôme, en fait, l'érosion. Et que si on voulait un peu s'attaquer à ce problème, finalement, comme le disait un des membres du collectif de Cotera, ce qui se joue, c'est l'agriculture du territoire. Voilà. Mmh. Et ça va bien au-delà de l'érosion.
Vous rejoignez l'actualité parce qu'on a entendu beaucoup d'agriculteurs s'exprimer, justement, ces questions-là reviennent.
Hein. Oui, tout à fait. Bah oui, il y a beaucoup d'agriculteurs du territoire qui se sont mobilisés justement lors de ces... lors des mobilisations. Et vraiment, nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est une approche systémique, en fait, de ces problèmes et rentrer par l'enjeu d'autonomie. On a écrit une tribune récemment, justement, sur ces mobilisations. Et où on dit que finalement, c'est pas une mobilisation tant contre les normes environnementales, mais c'est une mobilisation pour plus d'autonomie.
Oui.
Parce que les agriculteurs, ils sont vraiment pris dans un système et dans des relations de dépendance où c'est de plus en plus, en fait, leurs choix sont vraiment contraints. Et donc, on ne peut pas leur demander de changer de pratique comme ça, de manière individuelle, sans finalement repenser tout le système qu'il y a autour.
Le projet a démarré à peu près quand ? Il y a deux ans à peu près ?
Alors ça a démarré en 2019.
2019, ouais. Très bien. Il y a eu déjà pas mal d'actions menées dans ce territoire. On ne l'a pas précisé, le territoire d'ailleurs. C'est les anciens cantons de Ille-en-Dodon, de Boulogne et d'Aurignac, je crois.
C'est ça, le Nord Comminges.
Ouais. Donc beaucoup d'actions menées déjà, mais au départ vous avez sollicité des partenaires, je suppose ?
Oui, donc au départ, les partenaires, donc il y avait la Chambre d'agriculture, le Conseil départemental, syndicat de rivière, de la Save et du Touche. Et puis, il y avait le lycée agricole et l'AGVA de Boulogne-sur-Gesse. Mmh. Donc voilà, on avait les différents acteurs avec différents intérêts, différentes visions. Et la première année, c'était un peu de mettre tout le monde autour de la table pour discuter de ses perspectives et voilà, de faire un espèce de diagnostic partagé du territoire.
Vous vous souvenez de la première réunion d'information que vous avez faite, les réactions du public ou des partenaires, vous vous souvenez ou pas ?
Oui, moi je me rappelle d'une première présentation du projet à l'AG de l'AGVA de Boulogne.
Ouais.
Oui, c'était un peu finalement, qu'est-ce que l'INRAE vient faire là sur le territoire, voilà, pourquoi ce projet Donc ouais, ça peut susciter des questions, enfin surtout qu'il y a.
Mais c'est fait pour ça d'ailleurs, pour susciter des questions, je suppose.
Oui, ouais, tout à fait.
Il faut bien préciser que le projet Cotera, on appelle ça un projet de recherche-action participative. Mm-hmm. Quand on dit recherche-action, ça veut dire que c'est pas de la recherche qui est hors sol. On met en place des actions et on regarde leurs impacts. Il y a une vraie étude de la transformation des sociétés avec ce projet, et participatif parce que c'est pas construit par la recherche et pour la recherche. Le but, c'est justement que tous les les acteurs du territoire fassent remonter leurs questions, décident ensemble de la façon de mener les actions.
Et trouver des solutions, je suppose aussi.
Et trouver des solutions. Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant de monde autour de la table.
Oui, alors on va rentrer dans le détail des actions et de tout ce que vous pouvez mener tout au long de l'année, mais on va faire la première pause musicale, qui, je le rappelle, est choisie par mes invités du jour. On va écouter une chanson qui s'intitule « L'agriculteur », donc qui est choisie par Caroline. Alors c'est une chanson qu'on a jouée énormément sur Radio Coteau. Le chanteur s'appelle Ridan, on l'écoute.
Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Très bon choix, très belle chanson, ça me rappelle des souvenirs. Alors je retiens un certain mot de cette chanson, raison, retour à l'essentiel, la mélodie de la nature. Il y a un peu tout ça dans le projet Cotera quand même.
Bah un peu, en fait, quand on parle d'autonomie et quand on en discute avec les agriculteurs, ça ressort souvent en fait la question du bien-être et de bien vivre de son métier. Au-delà de l'autonomie, d'avoir une structure économique qui fonctionne, au-delà d'avoir un modèle environnementalement chouette, au-delà d'avoir quelque chose qui fonctionne agronomiquement, il y a aussi être heureux de son métier, en fait. Mmh.
Alors, je rappelle que nous sommes quand même en compagnie de Caroline Mouille, Floriane Clément, qui travaille à l'INRAE à Toulouse. Hein, on n'a pas précisé, c'est à Toulouse. Et donc, Emmanuel Canien, qui, lui, est éleveur laitier du côté de Blagen. Et j'ai envie de te poser une question, Emmanuel. Pourquoi avoir rejoint cette aventure du projet Ecoterra? On l'a un peu compris dans ton parcours, mais qu'est-ce que tu attends de ce projet, de toutes ces actions qui sont menées?
Alors, pourquoi avoir rejoint ce projet? Jusqu'à l'an dernier, j'étais président de l'AGVA du Boulonnais. Donc, l'AGVA, c'est l'association des agriculteurs de l'ancien canton de Boulogne. J'ai passé la main à François Manin, un jeune agriculteur du Boulonnais. L'an dernier. Il y a quelques années, Florian à l'INRAE est venu nous demander si on était intéressé pour réfléchir à ces problématiques d'érosion tout d'abord et puis ensuite d'autonomie. Donc. Et moi, ça m'a parlé de suite parce qu'en fait, c'était un sujet, les problèmes d'érosion, les problèmes de sol. C'était un sujet auquel je m'intéressais fortement depuis déjà une dizaine d'années. Donc ça a été tout naturel pour moi de participer à ce projet et de faire intégrer aussi toute l'association de l'AGVA et pour essayer aussi d'amener cette réflexion à un plus grand nombre d'agriculteurs.
C'est des thématiques que vous abordez au sein de l'association, justement entre vous, dans vos discussions?
Oui, bien sûr, oui. Les thématiques en agriculture, on l'a vu récemment, elles sont multiples et très variées. Mais effectivement, oui, les problèmes d'érosion, les problèmes d'autonomie, c'est des sujets qu'on évoque. Et puis, l'AGVA a justement cette mission, donc c'est une association assez ancienne, elle a pour mission, le développement de l'agriculture et quelque part, je dirais, pour rejoindre un peu ce que disait Caroline, le bien-être des agriculteurs. Voilà. Le bien-être au travail, c'est quelque chose dont on parle peu en agriculture. On en parle beaucoup dans d'autres professions, mais assez peu en agriculture. Et donc, en fait, c'est vraiment important d'en parler. C'est d'ailleurs un sujet qui est ressorti aussi lors des mobilisations récentes de janvier. Pour rappel, il y a deux agriculteurs par jour qui se suicident, malheureusement. Donc, ça traduit vraiment un mal-être et un engrenage, un cercle vicieux dans un système dans lequel on est souvent et dont on a du mal à se sortir. Donc un projet comme celui-là est vraiment le bienvenu sur le territoire et évidemment qu'il faut y participer et essayer de faire participer un maximum d'agriculteurs.
Mesdames, les élus, les collectivités ont répondu à cet appel de ce projet Ecoterra ou c'est un peu encore difficile?
On a un élu, on a le maire de Samant, Julien Lacroix, qui est fortement impliqué dans le projet. On a aussi pas mal discuté avec la communauté de communes, Cœur et Coteau de Comminges.
Oui. Avec sa présidente, je suppose.
Avec Christophe Laforgue et puis avec le vice-président
Monsieur Pyrénéen
à l'agriculture, Laurent Briol également.
Oui. Ouais. Pyrénéen, justement, vous serez présent à la prochaine édition?
On sera présent au sein du pôle développement durable.
Ouais. Donc pour expliquer ce qu'est le projet Ecoterra, les gens qui se posent des questions, ils peuvent venir vous voir.
Pour expliquer Ecoterra, mais aussi et surtout pour présenter un peu des actions types qu'on mène, pour présenter l'exposition itinérante qu'on va mettre en place, pour faire des essais, faire des démonstrations agricoles sur le territoire.
Je sens que Caroline, elle veut parler des actions que vous menez, des actions qui ont déjà été menées. Alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur tout ce qui a été fait depuis quelques années déjà? Alors il y a eu Ciné-Débat, vous avez participé à un festival, je crois, du film
Terre Vivante en Comminges.
Alors en fait, il y a plusieurs volets d'action. Pour simplifier, en gros, on a un peu deux angles. On a l'approche où on accompagne un groupe d'agriculteurs sur des essais de pratiques différentes qu'on essaie de valoriser avec un peu la méthodologie scientifique qu'on a. Cette année, on fait des essais sur des couverts végétaux à pâturer. Donc on regarde un peu des mélanges de couverts végétaux, comment ils se comportent, et en particulier aussi face au pâturage. Ça se traduit par des journées techniques, par des fiches techniques, etc., qui seront transmises dans le territoire. Et puis, évidemment, c'est des journées qui sont ouvertes à tout le monde. Et on a un deuxième volet, on va dire, qui est plus généraliste, qu'on appelle un peu de la communication positive. L'idée, c'est d'expliquer vraiment le détail des pratiques agricoles, le pourquoi l'érosion, et donc quel type de pratiques agronomiques pourraient moduler certaines conséquences environnementales. Et là-dedans, du coup, on a cette fameuse exposition itinérante qu'on est en train de monter. En effet, on a organisé un premier ciné-débat sous la bannière des rencontres de Cotera, pour essayer de discuter avec les citoyens, avec les décideurs locaux, avec les agriculteurs, de mélanger un peu tout le monde, puisqu'en fait, il n'y a pas que des agriculteurs qui décident.
Y a tous les habitants du territoire, de toute façon, qui peuvent...
Leur regard joue énormément, en fait, sur les choix des pratiques, et leur compréhension aussi. Un citoyen ou une citoyenne qui accuse un agriculteur, ça a un impact très fort sur les pratiques de cet agriculteur.
Ciné-débat, c'était quel film que vous aviez proposé ?
Tu nourriras le monde. C'est un documentaire qui a été réalisé par des étudiants sur les transformations qu'a connues la Champagne, l'agriculture en Champagne.
Ouais. Je reviens aux couverts végétaux et aux tests donc plus scientifiques que vous faites sur le terrain. Et les résultats de ces tests, vous allez faire peut-être pas un livre, mais ils vont être visibles quelque part. Ce vont être des ouvrages scientifiques qui vont être édités ou pas ?
Alors, ils seront valorisés déjà sous la forme de fiches techniques qui expliquent les choix qu'on a faits, les observations qu'on fait. C'est souvent comme ça que ça se passe, un essai en agriculture, c'est qu'on se dit quelle problématique est-ce qu'on veut adresser, on met en place un essai, et puis après, au cours de l'année, on va regarder comment cet essai évolue et apprendre. Donc, en fait, on n'a pas un essai qui est parfait directement.
Ouais.
Donc là, cette année, on a mis en place une vitrine de couverts végétaux. Donc on a plus de 120 modalités différentes, des petites parcelles en fait, qui sont semées avec différents mélanges de couverts.
Alors vous les semez où, ces parcelles ? C'est chez des agriculteurs, je suppose ?
Oui, c'est chez ce fameux Julien Lacroix qui nous a prêté un bout de sa parcelle.
Ouais.
Donc là, ça nous permet d'avoir des journées ouvertes où on peut inviter largement, et avec l'expertise scientifique qui est présente au sein de Cotera, notamment Lionel Aleto, qui est assez expert de la question des couverts végétaux, on décortique les effets de ces couverts sur les sols. Donc là, on prend des photos, etc. Et après, on valorise tout ça au mieux dans des fiches techniques.
Ce genre de test, Emmanuel, toi, tu les pratiques, non ? Depuis un moment, en fait, tu as dû faire des essais, non ? Je suppose. Parce que le couvert végétal, tu le pratiques, hein ?
Oui, ça va faire 15 ans que j'ai commencé les couverts végétaux, parce que j'avais vu ça chez d'autres agriculteurs, comme je disais tout à l'heure. Et donc, effectivement, au début, même si on voit quelques réussites et aussi quelques échecs chez d'autres agriculteurs, eh bien, à un moment donné, il faut se lancer à faire des essais chez soi.
Mmh.
Donc ça c'est déjà une première petite difficulté, et après il y a aussi le regard en fait du voisinage, qui est aussi une autre difficulté, alors peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais voilà, de toute façon, alors ça je pense que c'est un peu humain, mais dès qu'on fait un peu différemment, ou dès qu'on est différent d'ailleurs, on est toujours regardé un peu de travers, et nous quand on est agriculteur, eh bien en fait on travaille au grand jour, puisque nos parcelles par définition, elles sont à la vue de tout le monde, donc ça c'est un frein psychologique qu'il faut arriver à passer, voilà, comme pour tous les changements de pratique, et c'est souvent un peu trop négligé, voilà, par toute la profession et par tout l'accompagnement, voilà.
D'où la nécessité de ce projet pour expliquer les choses.
Ouais, je pense. C'est vrai que aussi dans le projet, on met beaucoup l'accent sur le collectif, et parce qu'on pense que ça peut être vraiment déjà un soutien mutuel pour que les agriculteurs se retrouvent pas tout seuls, mais qu'ils puissent se soutenir mutuellement dans leurs questions, dans leurs interrogations, qu'ils puissent partager des retours d'expérience très concrètement. Et pour nous, l'autonomie, en fait, c'est pas quelque chose qui s'acquiert de manière individuelle, isolée, mais au contraire, c'est au travers de la coopération, de l'échange, de ressources, de par exemple des éleveurs qui vont échanger du fumier avec des céréaliers, qui vont les laisser peut-être pâturer les animaux sur leur champ, etc. Donc il y a plein de manières, en fait, de gagner en autonomie au travers de la coopération. Et c'est un des paris du projet.
De créer des réseaux aussi, je suppose. Hein.
Oui, exactement. Mmh. Ouais.
Ou de légitimer ce qui existe déjà aussi.
Oui. Et faire remonter justement ces informations-là, parce que ce qui existe déjà, on n'est peut-être pas au courant.
Exactement. Ouais. En fait, il y a un des volets du projet qui va être précisément d'étudier les réseaux de coopération entre agriculteurs qui existent sur le territoire, et de voir aussi comment les politiques publiques, elles peuvent soutenir ces réseaux, ou comment peut-être certaines politiques, au contraire, freinent l'émergence de nouveaux réseaux. Et ensuite, d'avoir un dialogue avec les décideurs publics sur ces actions.
Alors, comment s'est organisé ce projet Cotera? Est-ce que vous avez créé des commissions? Est-ce qu'il y a un comité de pilotage? Comment ça s'organise?
Il y a différents cercles, parce qu'on est évidemment très nombreux. Il y a un premier cercle qui est le cercle des partenaires proches, c'est ceux qui sont impliqués dans les décisions qu'on prend stratégiques pour les projets. Donc là, on est à peu près 13 organisations autour de la table. Il y a un autre cercle qui est le cercle des agriculteurs, qui va se structurer autour d'un GI2E, un groupement d'intérêt économique et environnemental, si je ne me trompe pas, qui est en fait une association d'agriculteurs soutenue par des financements publics pour animer en fait le groupe et pour multiplier les essais. Donc un peu comme ce qu'on fait dans Cotera, mais en plus long et en plus reconnu aussi par l'État. Mmh. Et après, on a évidemment tout le réseau élargi, on va dire, parce que Cotera ne fonctionne pas en petite bulle avec que les partenaires. On est aussi en interaction avec les institutions locales, les associations qui ont déjà des pratiques, la DAR, Arbres et Paysages d'OTAN, etc. D'autres associations qui ont des complémentarités, en fait.
Et est-ce que chaque partenaire, même à titre individuel, est force de proposition au sein du projet de Cotera?
Alors oui, le pari aussi de Cotera, c'est qu'en fait, sur les 3 ans du projet, on a une forme de gain d'expertise de chacun. Il y a un des membres du projet qui disait ça au comité pilotage de cette année-là, qu'en fait, une des réussites, ça serait aussi qu'on arrive à s'exprimer sur ce que les autres savent, et qu'on arrive à faire confiance aux connaissances des autres dans le projet. Parce qu'on fonctionne pas, on peut pas fonctionner qu'en silo, et que si on cantonne la connaissance des politiques publiques aux politiques publiques, la connaissance du fonctionnement agricole aux agriculteurs, le fonctionnement des rivières aux syndicats de rivières, en fait, il n'y a jamais de dialogue. Là, le but, c'est justement de créer un espace de dialogue aussi.
C'est essentiel même, je crois. Emmanuel, depuis que tu as intégré ce projet Cotera, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu sens que c'est un projet qui est utile, voire même essentiel? Et est-ce que quelques voisins agriculteurs sont venus te questionner? Il y a plusieurs questions.
C'est surtout l'idée que l'intérêt que j'y vois, c'est qu'on a réussi à créer un groupe d'agriculteurs qui va s'intéresser à ça, avec qui on va pouvoir échanger concrètement, sur des essais, sur des pratiques, vraiment avec des mesures, des constatations vraiment sur le sol. L'intérêt, c'est ça, que ce groupe d'agriculteurs ait pu se former pour
s'approprier, peut-être.
S'approprier, merci. Toutes ces problématiques et puis les solutions. Les solutions ou les réponses à ces problématiques-là, Donc c'est surtout ça l'intérêt d'avoir, d'avoir ce groupe et qui ensuite va pouvoir un peu diffuser un peu plus largement. Quoi. Voilà.
Tu parlais tout à l'heure de regard du voisin, regard des autres agriculteurs peut-être. Et notre ami Floriane a choisi Georges Brassens, La mauvaise réputation. Je crois que c'est pour ça. Oui,
c'est exactement.
C'est exactement ça. Ça. On va écouter donc Georges Brassens.
Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde mérite de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
C'est ça aussi, je pense, l'utilité du projet Ecoterra, c'est que les gens aient une autre vision peut-être de l'agriculture, non ?
C'est ça. En fait, le projet Ecoterra, là, le Nord Comminges, c'est un territoire qui est très axé sur la polyculture élevage. Mmh. La polyculture élevage, ça implique la présence de l'élevage dans le paysage. Et on ne peut pas nier qu'il y a des gros débats, notamment portés par des associations, sur la façon dont cet élevage doit être mené.
Le bien-être animal.
Notamment.
Ouais.
Et du coup, c'est aussi l'un des sujets-là, c'est de discuter plus largement qu'avec les agriculteurs qui, eux, font des choix agronomiques en connaissance de cause et aussi pour des raisons économiques. Là, c'est d'élargir un peu la discussion et de faire prendre conscience aussi à plein d'habitants du territoire que une forme d'élevage, des formes d'élevage peuvent rendre vraiment des services environnementaux. Mmh. C'est ce qui a complètement modulé le paysage du Nord Comminges tel qu'on le connaît aujourd'hui. La présence des bois a aussi un intérêt, la présence des prairies a un intérêt, a des liens avec l'élevage. Mmh.
Je posais une question, c'est sur le territoire, hein, c'est le Nord Comminges, mais est-ce qu'un projet Ecoterra qui est ancré sur ce territoire-là peut exister ailleurs ?
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que on cherche en fait avec le projet à répondre vraiment aux enjeux propres à ce territoire. Mais après, l'idée, c'est aussi quand même de tirer des leçons plus génériques sur les manières d'accompagner les transitions agricoles sur d'autres territoires.
Tout à l'heure, vous avez évoqué une exposition itinérante. De quoi s'agit-il exactement ?
Cette exposition itinérante, on l'a appelée des agricultures pour des paysages vivants. L'idée, c'est justement de décortiquer les liens de cause à conséquence entre les pratiques agricoles, l'organisation du paysage et les effets environnementaux. Mmh. Donc on y explique, on cherche à comprendre d'où vient l'érosion, quels sont les liens entre l'érosion et la présence de l'élevage, quels sont les liens entre la présence de différents élevages et la biodiversité observé dans le paysage. Voilà.
Alors le projet Ecoterra, on parle d'agroécologie. Comment on pourrait définir l'agroécologie pour ne pas faire peur à tout le monde ? qui veut répondre à cette question?
Alors, je veux bien essayer de répondre, mais peut-être que ça ne va pas être une réponse très scientifique. Je laisserai Florian.
Non, mais même philosophique, hein, pourquoi pas.
Voilà,
hein.
Voilà, non, mais justement, l'agroécologie, alors déjà pour rappeler que, en fait, depuis que l'agriculture existe, en fait, les agriculteurs font de l'agroécologie. Par définition, l'agroécologie, c'est. Réunir l'agriculture et l'écologie. Et ça, les agriculteurs, depuis la nuit des temps, en fait, c'est ce qu'ils font. Voilà. Puisque, en fait, avant la chimie, avant l'arrivée de la chimie assez récente en soi, vu au nombre des années d'existence de l'agriculture, on ne peut pas faire d'agriculture efficace sans tenir compte de l'environnement. Voilà, ça c'est un premier fait. Et je dirais pour le recadrer un peu plus dans l'actualité, dans le présent, l'agroécologie, c'est vraiment prendre en considération toutes les ressources naturelles et les possibilités que nous donne la nature. En fait, on a pour habitude en agriculture, et peut-être d'une manière générale l'humain, en fait, a pour habitude d'aller contre nature, en fait. Parce qu'on veut toujours, tout ce qui nous embête, on a toujours envie de l'éradiquer. Voilà, on a toujours plein de choses qui nous embêtent, dont on ne voudrait pas. Et sauf qu'en fait, contre la nature, en fait, on n'y arrive jamais. On n'arrive jamais à gagner contre la nature. La nature a toujours... trouve toujours en fait une faille et pour nous repasser devant et donc en fait tant qu'on essaie de lutter contre la nature, d'aller contre nature, on n'y arrive pas. Et donc travailler en agroécologie, en fait, c'est essayer d'aller dans le sens de la nature et plutôt de surfer un peu entre et d'essayer juste de guider la nature pour faire en fait ce qu'elle nous arrange dans nos champs ou avec nos animaux. Voilà.
Alors, vous avez mis en place, on le disait tout à l'heure, des tests, hein, des essais sur des terrains de Julien Lacroix. Mais en fait, le projet Cotera aussi se base sur des pratiques ancestrales, parce que l'agroécologie, c'était ça aussi.
Oui, alors avec la différence quand même qu'on gagne en connaissance agronomique, on gagne beaucoup de finesse quand même dans la connaissance des interactions entre les végétaux et le sol, entre le sol et l'animal, dans les années récentes. Donc l'agroécologie, c'est aussi... réussir à réintégrer ces connaissances fines du vivant dans les pratiques des agriculteurs. Sans pour autant... Enfin, il y a pour moi une dimension aussi dans l'agroécologie d'humilité, en fait. Et de dire, je n'intègre pas ces connaissances pour les manager, mais aussi pour que le système fonctionne mieux grâce à moi.
Et puis, il ne faut pas oublier le côté autonomie économique aussi. Je suppose, dans l'agroécologie, ça fait partie aussi de l'agroécologie.
Oui, exactement. Ouais. Il y a vraiment des synergies entre agroécologie et finalement plus se reposer sur les processus écologiques, les processus du vivant. Et du coup, ça permet de réduire les relations de dépendance aux intrants chimiques, par exemple, ou dépendance à l'énergie. Enfin, par exemple, si on fait moins de travail du sol, on aura peut-être moins besoin de passer le tracteur, etc. Donc finalement, ça va aussi vers une réduction des coûts. Et ça, c'est important.
Tous ces tests, ces essais que vous menez, là, ça fait une étude, quoi, en fait, hein, complètement une étude scientifique. Mais est-ce que cette étude scientifique pourrait être amenée à plus haute échelle,
bonne question.
Non, mais c'est intéressant quand même, parce que c'est un vrai travail de fond que vous faites. Hein, et c'est quoi la suite, en fait? Est-ce que ce travail de fond peut être utile pour un changement?
Il peut l'être. Le vrai avantage, à mon sens, c'est qu'il est ancré dans la réalité des agriculteurs d'un territoire. Et du coup, c'est un peu une approche du bas vers le haut, qui est une approche assez différente de celle qu'on a beaucoup en ce moment, qui est une approche du haut vers le bas, où on édicte des règles, on édicte des pratiques comme si elles étaient applicables partout, comme si tous les écosystèmes se ressemblaient, comme si tous les groupes humains étaient les mêmes, comme si toutes les topographies fonctionnaient pareil, alors que chaque territoire a un peu son histoire. Là, le but, c'est justement de montrer qu'il y a aussi besoin de quelque chose de plus localisé, quoi.
Et plus simple, je suppose, parce qu'on a beaucoup parlé avec l'actualité des normes. On entendait beaucoup les agriculteurs se plaindre. Est-ce que l'agroécologie, c'est aussi une façon, peut-être, de proposer autre chose ?
j'aime pas trop ce mot de simplicité parce que parce qu'en fait l'agriculture et les interactions du vivant sont extrêmement complexes.
Oui.
Et justement, là le travail c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose de complexe et qui nous dépasse et qu'il faut travailler avec ça.
Et je pense
mais en proposant des choses peut-être différentes.
Oui, après la mobilisation aussi contre les normes environnementales. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui trouvent que les normes environnementales, finalement, parfois, elles sont contre-productives et finalement, elles ne s'appliquent pas à leur cas, à leur territoire.
Oui.
Et il y a un espèce aussi de sentiment d'injustice et d'être dépendant de ces règles en fait, sur lesquelles ils n'ont pas prise, qu'ils n'ont pas décidé et qui, pour eux, sont parfois contre-productives. Donc il y a aussi l'idée de se réapproprier finalement les choix qu'on peut faire sur sa ferme.
Parce que là, c'est des normes décidées en haut lieu, alors que vous, vous travaillez justement sur le territoire d'abord, vous testez et ensuite vous faites remonter les informations. C'est peut-être plus judicieux.
Alors, on ne sait pas si on va réussir à faire remonter les informations jusqu'à Bruxelles. Et puis, il n'y a pas...
Étape par étape, mais c'est quand même un travail essentiel que vous êtes en train de faire.
Bah oui, oui.
Ouais. Non, mais c'est important cet axe-là aussi, ouais. Je crois. Alors, dans les prochaines actions ou événements que vous allez mettre en place, on peut en citer quelques-uns ou pas ?
Oui, alors le mardi 19 mars, on a la prochaine journée technique de Cotera. Donc c'est là où on réunit les agriculteurs au bord du champ de M. Julien Lacroix à Samant pour continuer à travailler sur nos couverts végétaux.
Oui.
Et puis on a aussi l'inauguration de l'exposition itinérante qui aura lieu le mercredi 3 avril après-midi aux portes ouvertes du lycée agricole de Saint-Gaudens. Voilà, pour les prochains rendez-vous.
Après, il y a des réunions régulières ou pas ?
Oui, bien sûr. On fait des ateliers régulièrement.
On fait une réunion avec l'ensemble des partenaires une fois par mois, donc plutôt en visio parce que c'est vrai qu'on est un peu dispersés, mais c'est vrai qu'on a plein de cercles différents et de lieux différents d'interaction. Ouais.
Et il y a un calendrier des actions qui est disponible sur notre site internet.
Qui est ?
Le site internet ?
Oui.
projetcotera.fr.
Mais voilà, tout simplement. Alors si on est comme Emmanuel Cagnin et qu'on a envie de soutenir ce projet Cotera ou de s'investir dans ce projet Cotera, on fait comment ?
Alors pour moi, il y a différents cercles. Si on est agriculteur, agricultrice et qu'on est intéressé, déjà venir aux événements, se renseigner sur ce qui est proposé. C'est quand même un peu une chance de se dire qu'il y a des moyens qui sont mis dans la démonstration sur le territoire sans que les agriculteurs aient particulièrement à investir. Donc il y a une approche intéressante. Ça sera là aussi le cas pour le GI2E qui va continuer à faire des expérimentations et où normalement ces ateliers sont ouverts. Et après, il y a l'implication citoyenne, à mon sens, qui est de se renseigner. Alors nous, on propose certains outils, on propose l'exposition itinérante, on propose les rencontres, les ciné-débats, etc. Mais il y a aussi un peu un devoir d'information citoyenne, je trouve.
Et peut-être la multiplication des tests, des essais, pourquoi pas, si d'autres agriculteurs sont partants.
Ah bah là, ça serait génial.
Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous recherchez aussi, dans vos objectifs ?
Oui, tout à fait, oui. Ouais.
Or, amis agriculteurs, si vous nous entendez, le message est passé. Justement, quels sont les objectifs ? Est-ce qu'il y a une date butoir pour ce projet Cotera ? Est-ce qu'il y a un agenda qui est déjà bien mis en place ?
Alors, en fait, on a plusieurs phases du projet Cotera qui dépendent un peu aussi des financements qu'on arrive à mobiliser finalement pour organiser tout ça. Donc là, on a un projet qui est dans une phase de 3 ans, donc de 2022, fin 2022 à fin 2025, qui est financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et par la Fondation de France. Et puis voilà, puis après on verra pour la suite.
Mais ça serait dans l'intérêt de poursuivre et pourquoi pas sur d'autres territoires, évidemment.
Oui, pourquoi pas, oui. En fait, je pense que après moi je veux pas m'avancer trop en fait, ouais. Parce que c'est difficile de décider à l'avance comment on va poursuivre le projet. Enfin, je pense que ça va vraiment aussi dépendre de comment ça se déroule là et de où on en est à la fin et qu'est-ce qu'on a envie à la fin avec tous les partenaires.
D'autant plus que le but c'est justement que tous les acteurs du territoire s'emparent eux-mêmes de ces problématiques. Nous on a enfin, le projet Cotera sert un peu de lancement, de phase de réflexion, de discussion, d'interconnaissance. En théorie et dans l'idéal, il y aurait plus besoin de projet Cotera. En fait, la réussite du projet Cotera, c'est qu'il n'y ait plus besoin de projet Cotera après.
Oui, ou que ça crée peut-être des réseaux. Des...
Plus porté par la recherche,
ouais,
en tout cas.
Ouais, ouais. Porté par, par les gens sur le territoire, tout simplement. Manuel, qu'est-ce que tu penses de ça?
Oui, effectivement, la réussite du projet, c'est ça, c'est l'implication d'un maximum d'agriculteurs. Voilà, c'est à la fois le challenge, la difficulté et une preuve de réussite. Voilà, si, enfin, il y a déjà un bon groupe, mais voilà, on a souvent. Voilà, pour faire le lien un peu avec ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux mobilisations. Alors voilà, il y a certains agriculteurs, des fois certaines tranches d'agriculteurs qui opposent l'écologie ou la protection de l'environnement avec l'agriculture, alors que en fait non, tout au contraire, il faut vraiment arriver à allier les deux. Voilà, comme ça s'est toujours fait un peu et comme peut-être on avait perdu un peu parfois le lien, et ce projet-là peut nous aider à recréer ce lien justement, et parce qu'en fait c'est un gain pour l'agriculteur à tous les niveaux, quoi. C'est un gain économique de toute façon, puisque tous les intrants qu'on a besoin aujourd'hui sur une ferme, que ce soit l'énergie, les machines, la chimie, tout est de plus en plus cher. Et donc, en fait, voilà, l'autonomie permet vraiment un gain économique. Et puis, d'aller un peu plus dans le sens de la nature aussi, ça sera un gain économique, de toute façon. Et puis, derrière, ça permet un bien-être au travail. Voilà. Donc, c'est vraiment, ce projet, c'est vraiment une porte d'entrée pour améliorer notre travail et nos conditions de travail en agriculture. Donc c'est vraiment une belle opportunité qu'on a, nous, sur le territoire, nous agriculteurs, pour essayer, entre nous déjà, aussi entre agriculteurs, d'échanger sur ces problématiques-là, quel que soit son niveau, je veux dire, d'avancer dans ses recherches de solutions. L'essentiel, c'est d'être curieux et de pas avoir peur d'oser un peu le changement. Mmh. Voilà, en fait, c'est ça qui peut freiner un peu, quoi. Voilà. Mais
et tout à l'heure, Florian évoquait l'échange de services entre agriculteurs. Ce sont des choses qui se faisaient avant.
Oui, alors ça existe toujours quand même, l'entraide, les échanges, ça existe toujours, certainement moins qu'avant, mais il faut arriver à entretenir ça un petit peu. On a quand même la chance dans nos régions de polyculture élevage, où on a encore quand même des liens assez forts entre agriculteurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans les régions où l'élevage a disparu. Hein. Mmh. Voilà.
Alors on a parlé assez longuement aussi d'autonomie. Hein. Est-ce que le développement de marché à la ferme, par exemple, sont des choses sur lesquelles travaille le projet Cotera?
Les changements dans les modes de commercialisation des agriculteurs, c'est un des changements les plus difficiles. Et à mon sens, c'est un peu l'aboutissement de plein d'autres changements en amont. Parce que faire un marché à la ferme, ça veut aussi dire parfois transformer ses produits, les conditionner différemment. Pour plein d'agriculteurs, c'est un vrai changement de métier. C'est parfois un double métier. La question de l'autonomie, elle ne pousse pas forcément à ce qu'un agriculteur se débrouille tout seul sur tout. Ce qui est important, c'est que l'agriculteur fasse des choix en conscience. Et il y a des circuits plus longs de commercialisation qui ne sont pas forcément de la vente à la ferme, qui peuvent être légitimes du moment où l'agriculteur s'y sent bien, y est justement rémunéré et a sa voix aussi dans la prise de décision de cette petite coopérative.
Oui, tu parles de coopérative, mais c'est le cas, c'est la réalité. J'ai des exemples de fermes qui travaillent avec d'autres producteurs, qui organisent un marché à la ferme chez un des producteurs, tous les autres viennent, proposent leurs produits. C'est ça aussi le réseau, c'est ça aussi la force pour acquérir une meilleure autonomie.
Oui, exactement. Ouais. C'est par là aussi que voilà, c'est aussi des formes de coopération qui favorisent justement l'autonomie. Mmh.
Ouais. Alors, il y a une thématique qu'on n'a pas abordée et pourtant elle est vitale, c'est la ressource en eau. Est-ce que le projet Cotera, vous allez travailler sur l'eau, je suppose?
C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup
parlé. On n'en a pas parlé, on ne l'a pas évoqué encore.
Mais en fait,
peut-être un peu Emmanuel, oui.
Oui, un peu, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est... Alors, bah, on est, je l'ai dit, on est quand même financé par l'Agence de l'eau, ouais, donc il y a quand même un petit rapport avec l'eau. Et c'est vrai que finalement, bah, les problèmes d'érosion, au départ, c'était aussi surtout des problèmes de qualité de l'eau, parce qu'il faut savoir que dans les cours d'eau, là, sur le territoire, la pollution majeure, c'est pas les produits phytosanitaires, mais c'est les matières en suspension qui résultent de l'érosion des sols. Et donc on travaille sur l'érosion, on travaille aussi sur la qualité des cours d'eau.
Ça c'est pour l'aval, mais ouais. Après il y a aussi la question de l'amont et de la consommation d'eau en production. C'est extrêmement complexe d'un point de vue agronomique, mais quand on travaille sur la couverture des sols, on travaille aussi indirectement sur le gain de fertilité, sur la restauration de la matière organique des sols, sur la vie des sols, et tout ça c'est des structures de sols qui permettent aussi de entre guillemets mieux garder l'eau.
Et de diminuer la consommation aussi, c'est
notamment.
Ça ouais. L'utilisation.
Après, Manu a plus d'exemples.
Oui, peut-être Manuel.
Non, c'est tout à fait ce que disait Caroline. En fait, quand on travaille sur l'amélioration de la santé du sol, en fait, on améliore sa capacité de ce qu'on appelle la capacité de rétention d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau que va contenir un sol. Voilà. Et donc, en fait, tout est lié et toujours pareil, quand on revient sur des éléments importants de la nature, c'est-à-dire que un sol doit toujours être couvert, par définition, la nature a horreur du vide et ne laisse jamais un sol nu. Donc en fait, il y a bien en fait plein de raisons à ça. Et donc quand un sol est vraiment bien entretenu, enfin bien entretenu, bien respecté, et qu'il a une très bonne structure, on augmente la quantité d'eau en fait qu'il va contenir. Donc en fait tout va dans le même sens en fait quand on voilà, c'est pour ça que quand on parle d'agroécologie en fait on a du mal à imaginer tout ce qui la quantité de choses qui peuvent aller dans ce sens là et donc par rapport à la problématique de l'eau en fait l'importance de la qualité du sol et je pense vraiment trop sous-estimée aujourd'hui. Voilà, c'est un vrai moyen de protection en fait de l'eau que de s'intéresser à la qualité des sols en fait comme on disait tant en amont qu'en aval voilà.
Tu voulais rajouter quelque chose? Non.
Non, je voulais peut-être juste dire qu'on ne nie pas que ça reste difficile, en fait. Mmh. Et que ce n'est pas parce que certaines pratiques permettent de diminuer les apports en eau ou permettent une meilleure résilience qu'on devient totalement indépendant de la ressource en eau, en fait. Mmh. Ça reste problématique. Semer des couverts à certaines périodes, notamment en été, parfois c'est compliqué. Avoir des prairies permanentes en été qui prennent un peu la sécheresse, ça peut être compliqué.
Donc, Il y a des études scientifiques qui ont été menées sur l'eau, en général ou...
Oui, bien sûr.
Ouais.
C'est un sujet quand même qui reste assez complexe.
Et d'ailleurs, il y avait un autre projet qui était mené par Lionel Aleto, là, qui fait partie aussi de l'équipe scientifique qui est impliquée sur Cotera, et qui a mené un projet de recherche qui s'appelle Bagage, qui était aussi financé par l'Agence de l'eau, où justement, ils ont regardé en fait, comment différentes pratiques d'agriculture de conservation permettaient ou pas de garder mieux l'eau dans les sols. Mmh.
Mmh. Je vous propose la dernière pause musicale. On va remonter dans le temps grâce à Emmanuel, puisqu'on va écouter un petit Michel Delpech hein, de Derrière les fagots.
Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares. Chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche dans le Loir-et-Cher.
me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue.
Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, ils me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux, et qu'il faut que je trouve encore un poste d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière, que je reviendrai un de ces dimanches passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, ils me disent, sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue.
Caroline Florian, vous avez été obligée de marcher dans la boue parfois ou pas?
Mais c'est
pas
bien.
Mais c'est pas gênant.
Non, absolument.
C'est pas du tout gênant.
Lors de la dernière journée technique, oui.
Donc nous sommes toujours avec Caroline Florian et Emmanuel dit Manu, puisque vous l'appelez Manu à tour de rôle. Nous vous sommes en train de vous parler du projet Ecoterra. Ça fait une petite heure qu'on est ensemble et toute bonne chose a une fin. Et alors, on va donc conclure cette émission. Je vais vous demander si vous voulez rajouter quelque chose sur le projet Ecoterra, sur l'agroécologie, sur l'agriculture en général. On va faire un petit tour de table. Caroline.
Peut-être une perspective un peu plus élargie du projet. Je voulais revenir sur le fait que moi, quand j'étais en école d'ingénieur agro, on m'a beaucoup vendu le métier d'agriculteur en me disant que c'était un métier difficile, en m'invitant pas vraiment à y aller, en me disant, le fait d'en parler, rien que le fait de mentionner l'idée d'être agriculteur, agricultrice, souvent c'était plus des alertes que des encouragements qui étaient prodigués. Et je voulais juste dire que dans le projet Ecoterra et dans cette perspective d'agroécologie qu'on explore ensemble, moi je retrouve quelque chose de vraiment super enthousiasmant en fait à ce métier. Et ça donne une perspective vraiment joyeuse de la vie paysanne. Et c'est extrêmement moteur aussi pour apprendre. Voilà.
En ce qui nous concerne, on se retrouvera quand ton projet sera effectif, ton projet d'installation. Tu seras invité de Radio Coteau, en tout cas. Floriane.
Moi peut-être je voulais revenir sur le fait que on est en fait dans le collectif Ecoterra, on n'apporte pas vraiment de jugement, on n'est pas là pour juger les pratiques des uns et des autres, et que justement on essaye vraiment d'avoir un lieu de dialogue qui soit ouvert et bienveillant, avec aussi les habitants et les élus sur le territoire. Et qu'effectivement, comme disait Caroline, c'est pas forcément facile de changer de pratique. Et pas facile non plus de changer le système qu'il y a autour. Et avec ce projet, on essaye d'avancer un peu de notre manière, et de manière peut-être modeste, mais voilà.
Modeste par rapport au tout travail que vous faites, c'est quand même pas... Il me semble pas. Modeste, c'est pas le bon mot. Hein. Emmanuel ? Manu ? Une conclusion ?
Je voulais peut-être redire un petit mot sur l'agroécologie par rapport à la polyculture élevage qu'il y a dans nos territoires. Donc la polyculture élevage, en fait, c'est un mélange d'élevage et de culture céréalière qu'il y a sur une ferme. Donc ça, c'est pratiqué aussi depuis la nuit des temps. C'est assez présent sur nos territoires, puisqu'en fait, il y a la moitié de la surface agricole qui est en herbe sur nos territoires. Et en fait, déjà, ça, c'est de l'agroécologie, puisque le mélange, en fait, des animaux et des cultures, des prairies, tout ça, ça fait vraiment partie intégrante de l'agroécologie. Donc en fait, on entend souvent dans les médias que l'élevage est un souci pour l'environnement. Ça peut être vrai avec certains types d'élevage, mais je pense que l'élevage est surtout une solution pour l'environnement parce que, à travers les prairies, il apporte vraiment beaucoup de solutions par rapport au stockage du carbone, par rapport au problème d'érosion, à la qualité de l'eau, au paysage. Donc vraiment, voilà, la polyculture élevage, comme elle est pratiquée encore dans de nombreuses régions en France, c'est vraiment de l'agroécologie.
Merci pour cette belle conclusion. On aime bien ce discours. Et puis on rappelle que l'agriculture nourrit le monde, hein, tout simplement. Vous savez, ça c'est important, c'est essentiel, c'est vital, non ? Merci à vous trois d'être venus sur Radio Coteau. C'était un vrai plaisir.
Merci beaucoup pour l'invitation.
De parler de ce magnifique projet Ecoterra. Et puis on reste en contact, bien entendu. S'il y a une évolution, on refera des émissions. Hein, pourquoi pas ? Manu, il a pris goût maintenant, il va revenir. À bientôt. Au revoir.
Dans Atmosphère sur Radio Coteau, vous avez la parole sur tous les thèmes de l'écologie, du développement local et durable et du commerce équitable. Contactez-nous au 05 62 66 92 25 ou par email radio.coteau@orange.fr.